l'ensemble des populations et des partenaires économiques qui mettent en place ces outils puissent s'y retrouver. Là, il y a confiance entamée, il y a danger.
Oui, vous utilisez beaucoup d'ailleurs les réseaux sociaux et les politiciens africains utilisent...
Ah, je ne vous entends pas là.
Vous m'entendez, Monsieur Mungala? Allô, allô, allô?
Allô?
Oui, vous m'entendez?
Très loin.
D'accord. Donc, je répète, les politiciens utilisent souvent Facebook, comme par exemple M. Kagame.
Non, je ne vous entends pas.
D'accord.
Allô?
La connexion, on va essayer d'arranger la connexion, ce sont
les aléas. Non, mais là, ça va mieux.
Ah.
Là, ça va mieux, je vous entends, là. Là, je vous entends.
Oui, je disais que vous utilisez beaucoup les réseaux sociaux et puis d'autres politiciens africains comme par exemple M. Kagame utilisent Facebook. Est-ce que vous utilisez cette plateforme pour véhiculer des messages pour la cible électorale comme la jeunesse?
Bon, nous utilisons évidemment cette plateforme de communication comme les autres, c'est-à-dire Twitter et même WhatsApp, pour des raisons évidentes de communication et même de notre vie quotidienne. Donc ce sont des outils qui sont extrêmement utiles parce qu'ils permettent une communication de masse, mais en même temps, nous sommes des décideurs politiques et nous souhaitons quand même que nos conversations éventuellement privées, que nos données personnelles ne soient pas livrées comme ça à des tiers dont on ne connaîtrait pas les intentions. Donc il y a manifestement là un problème précis, un outil efficace, un outil utile, mais tout simplement aujourd'hui un problème de confiance. Il va falloir que le marketing et la communication de Facebook soient sacrément efficaces pour ramener la confiance.
Julie Ouhono, est-ce que l'ampleur de ce scandale vous surprend ou selon vous il y a une exagération du rôle de Facebook dans des élections américaines ou africaines?
Ah non, c'est pas du tout surprenant. Pour qui sait quel type de données personnelles le réseau social Facebook est capable de capter sur les individus, que ce soit des données qui sont fournies volontairement, c'est-à-dire des statuts ou bien des messages qui sont envoyés sur Messenger, mais aussi des données qui sont fournies de manière involontaire, c'est-à-dire les sites que vous visitez qui ne sont pas, qui sont en dehors de Facebook, ou bien les personnes avec lesquelles vous interagissez le plus, les applications que vous avez dans votre téléphone, votre micro, votre caméra, enfin bref, il y a... Non, l'ampleur du scandale est surprenante, elle doit l'être surprenante pour le public général, mais pour ceux qui, comme nous, hein, dans les Sans Frontières, travaillons sur ces questions de protection de données personnelles depuis une dizaine d'années maintenant, malheureusement, ce n'était qu'une question de temps avant que l'on voit se déployer les effets dangereux du commerce, enfin du business model, du modèle économique basé uniquement sur l'exploitation sauvage des données personnelles des utilisateurs d'Internet.
Basile Nyon, expliquez-nous dans quelle mesure une société comme Cambridge Analytica peut... Basile Nyon, on ne l'a pas au téléphone, donc je vais la poser à Franck Wolfens. Comment une société comme Cambridge Analytica peut influencer une élection présidentielle comme celle du Kenya en 2017?
Bah écoutez, il faut comprendre que le service de Facebook, qui, comme le reportage l'avait mentionné, qui a plus de 2 milliards d'utilisateurs, donc permet en fait une entrée sur une population et permet de pouvoir passer des messages et pouvoir influencer certaines décisions. Donc des compagnies comme Cambridge Analytica profitent de ces données qu'ils reçoivent à travers leurs relations aussi avec Facebook.
D'accord. Donc quand on connaît à travers Facebook les espoirs et les craintes de quelqu'un, est-ce qu'on peut, avec ces informations, influencer un vote? C'est ça la question.
Mais écoutez, je partage aussi les opinions des autres invités. Facebook est rentré dans notre mode de vie. C'est toute la journée, toute la nuit, tous les utilisateurs, en fait, ça fait partie de notre vie. Donc, on peut lire des informations qui peuvent ne pas être normalement ou d'habitude vraies, mais on peut faire confiance aussi à un mode de communication qu'on utilise le plus souvent. Donc, la plupart des sociétés profitent de pouvoir influencer des comportements comme le vote, par rapport à une confiance ou par rapport à la manière dont a été communiquée une compétence ou une qualification d'un candidat politique.
J'aimerais revenir sur l'attitude de Mark Zuckerberg, le créateur de Facebook. On a le sentiment qu'il a créé un monstre et qu'il lui échappe. Les développeurs et les partenaires annexes sont-ils en train de prendre le contrôle de Facebook, selon vous?
Ben écoutez, Facebook, depuis sa création, avec l'évolution de la technologie, l'évolution des choses, en fait, va devenir encore un plus grand monstre. C'est très difficile de contrôler une machine quand elle est lancée, telle que comme Facebook, à peu près 2 milliards d'utilisateurs, peut-être qu'il y aura encore plus, 5, 10 milliards. Donc en effet, Mark Zuckerberg a besoin maintenant de faire un peu plus de réformes, de reprendre la confiance des utilisateurs de cet outil tellement facile à utiliser pour partager en fait la vie, des bons moments, des photos, mais aussi, malheureusement, c'est aussi dans la main de ceux qui peuvent essayer de contrôler l'information et le comportement des utilisateurs.
J'ai une question pour le ministre Thierry Mungala, s'il est toujours avec nous. La Chine, par exemple, a interdit carrément Facebook de fonctionner et a créé des géants du numérique sur son territoire à la place. Mais en Afrique, on n'a pas encore trouvé un modèle de régulation qui permette de reprendre les choses en main. Est-ce que c'est dangereux, monsieur Mungala?
Alors, au-delà du danger, parce que je crois qu'il y a des spécialistes avec nous ici ce soir pour nous parler des dangers d'ordre technique ou juridique, non, du point de vue de la puissance publique, c'est-à-dire d'un État, notamment des États les plus fragiles que sont les États africains, nous avons un réel problème avec ces réseaux sociaux, non pas pour le contenu politique et l'excitation qui apporte nos citoyens dans les débats politiques, non, je parle là du modèle économique interne de nos États. J'ai été ministre des télécommunications ici à Brazzaville, au Congo, et je peux vous dire que l'arrivée de tous ces outils, c'est très bien, mais on a l'impression que l'État qui déploie à grands frais un certain nombre d'infrastructures, fibre optique dans notre pays par exemple, eh bien, voit lui échapper tous les revenus, toute la manne financière qui est captée par nos amis de Facebook, de WhatsApp, qui est d'ailleurs Facebook, etc. Et on a d'un côté une raréfaction des ressources et un entretien de nos infrastructures qui nous coûtent énormément, et de l'autre, une bonne partie du trafic numérique qui échappe à l'État. Donc le premier danger, c'est d'abord le modèle économique interne de chaque État. Donc il y a d'abord une réponse à apporter à cela, et je crois que l'Europe connaît le même problème quand on voit les problèmes fiscaux, parafiscaux qui sont apportés par les GAFA, comme on les appelle, Facebook, Google et les autres. On voit bien que même les puissances européennes qui sont quand même très avancées sur le plan technique et lourdement outillées politiquement, ont des problèmes avec ces modèles qui technologiquement sont parfaits, mais qui posent des problèmes d'ordre juridique, fiscal et puis même, pourquoi pas, sécuritaire.
Et Basile Nyon,
nous avons un problème.
Effectivement. Basile Nyon, si on vous a au téléphone, dans le même temps, est-ce qu'en Afrique, il y a le risque de trop de surveillance sur les réseaux sociaux pour voir le jour?
C'est possible que cela ait lieu au niveau de l'Afrique. Et il faut savoir s'adapter à l'évolution technologique du monde, parce que le problème qui se pose, c'est un manque d'informations au niveau des dirigeants et un manque d'informations pertinentes. Aujourd'hui, les réseaux sociaux qui donnent la liberté à la jeunesse sont en évolution constante. Et souvent, on a l'impression d'une certaine anarchie. Mais l'anarchie est relative au fait que dans certains pays, on n'ose pas laisser les jeunes parler de certains sujets qui semblent tabous. On se dit, s'il aborde ce sujet, ce jeune la relève certainement de l'opposition, ou bien il est manipulé pour créer une situation sociale qui ne convient pas à l'État en place. L'Internet n'est pas régulable, n'est pas régulé pour aujourd'hui, n'est pas régulable, parce que c'est vraiment le village planétaire. S'il y a une certaine liberté ailleurs, cette liberté remue la toile et elle est ressentie dans d'autres pays. Donc courir après une certaine réglementation de l'activité sur l'Internet, c'est courir après sa propre ombre quand on a le soleil derrière soi. Mm-hmm. Vous n'allez jamais la rattraper. Il faut donc d'abord que les gouvernements mettent en place des structures qui puissent leur permettre des actions proactives. Qu'est-ce que le gouvernement peut ne pas vouloir sur les réseaux sociaux, qui peut impacter négativement certaines choses qu'il ne veut pas, mais pas des choses dans le sens d'une dictature pour imposer certaines conduites à la jeunesse. C'est le nouveau monde.
On va rebondir dessus justement dans la deuxième partie d'émission. Je vais juste réagir avec nos téléspectateurs qui ont laissé quelques commentaires Facebook. Mamadou Alpha Baldé de Guinée nous dit « Chez nous en Guinée, Facebook a influencé positivement les dernières élections communales. Ça a permis de détecter des fraudes. Il faut aussi mentionner la publication des résultats dans chaque bureau de vote. » Et Fujo Maindouré Louzizila de la RDC dit « Moi, je pense qu'en Afrique, Facebook est loin d'influencer les processus politiques suite à des perturbations constatées dans les services de télécommunication au niveau d'Internet. » Et voilà, Washington Forum revient après une courte pause. Merci de nous retrouver pour la seconde partie de Washington Forum. Raissa Girondin, toujours en votre compagnie. On est allé, et non, le journaliste Patrick Abenga est allé à la rencontre de passants dans les rues de Kinshasa pour leur poser quelques questions sur le numéro 1 des réseaux sociaux. Regardez.
Oui, ce qui a comme avantage, je retrouve mes anciens amis dont on a fait connaissance il y a longtemps, des amis de longue date, il n'y avait pas de numéro, on s'est rencontrés là-bas. C'est un peu des avantages, c'est un lieu de rencontre quoi.
Mais ce que j'ai eu de Facebook, c'est que un ami a été insulté gravement au Facebook. Vous savez, quand vous publiez une photo et la personne qui vous voit peut facilement écrire de n'importe quoi sur vous. Et ce n'est pas pour des raisons comme celle-là que je m'étais décidé de quitter le Facebook.
Ben oui, je suis utilisateur de Facebook, je me connais souvent et tout. Mais pour faire confiance au Facebook, c'est un peu difficile parce que il y a certains de mes amis qui ont été piratés et tout. Pour faire confiance, c'est un peu difficile. Mais au moins, je suis un bon utilisateur de Facebook. Souvent, je me connecte pour causer avec mes frères et sœurs qui sont en Amérique ou quelque chose comme ça, pour faire des relations ou chercher des amis sur Facebook.
Il y a des amis dont on a piraté les comptes. Quelqu'un a piraté les comptes, il a commencé à échanger avec les amis, cet ami-là, même à publier des mauvaises photos sur les comptes d'une amie ou d'un ami, mais c'est pas lui qui a publié et ça le met sérieusement mal à l'aise. Donc Facebook, ça permet vraiment des relations, mais ça, c'est comme la science, elle a toujours de bons côtés et de mauvais côtés quoi.
Et nous retrouvons nos invités au téléphone en direct de Brazzaville, le ministre de la Communication et des Médias et du Congo, Thierry Mungala, via Skype de Paris, Julie Ouno, avocate et directrice d'Internet sans frontières, au téléphone du Maryland aux États-Unis, Basile Nyon, PDG de BCCA Networks and Technology, et avec moi sur ce plateau, Frank Wolfens, directeur associé US Africa Cyber Security Group. Facebook compte plus de 177 millions d'utilisateurs en Afrique. C'est plus qu'un passe-temps, il reste un outil puissant de communication dans divers domaines, n'est-ce pas Julie Ouno?
Oui, il reste un puissant outil de communication. Surtout, je voulais revenir sur deux éléments que vous avez abordés plus tôt. D'abord, le fait que la Chine ne veut pas de Facebook. La Chine ne veut pas de Facebook parce que Facebook est dangereux. La Chine ne veut pas de Facebook parce qu'elle veut contrôler les réseaux sociaux et contrôler ce qui s'y dit et contrôler qui y est et qui y dit quoi. Donc, c'est différent. La deuxième chose, c'était sur la question de la surveillance et de l'importance de protéger les données personnelles. À Internet sans frontières, nous avons mené des enquêtes qui démontrent que oui, il y a des outils de surveillance du réseau de télécom et d'Internet en particulier en Afrique subsaharienne et que effectivement le manque de protection des données personnelles, et là ça devient et c'est la responsabilité première évidemment des États, des gouvernements, nous en avons un représentant ici, mettre en place des lois qui sont suffisamment adaptées, suffisamment à jour pour répondre aux défis de la protection des données personnelles des citoyens. Maintenant sur Facebook comme outil de communication, oui, et je pense que l'une des personne interrogée dans le reportage, dans le micro-trottoir, a bien dit les choses. C'est-à-dire que oui, Facebook a permis des choses totalement inédites dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire des télécommunications. D'une part, nous ne serions pas là à parler s'il n'y avait pas le réseau sur lequel Facebook s'est développé. Et d'autre part, oui, politiquement, ça a été un outil qui a été très utile aux sociétés civiles dans le monde. Ça, il ne faut pas l'oublier. Je dis ça pour dire que le problème des données personnelles, ce n'est malheureusement pas propre à Facebook. C'est un problème pour Google, c'est un problème pour Amazon, c'est un problème pour les opérateurs de télécommunications en Afrique. Nous venons de publier une étude sur Orange au Sénégal et sur Safaricom au Kenya. Aucun des deux de ces opérateurs ne publie sa politique de confidentialité, c'est-à-dire sa politique de partage de données personnelles avec des tiers. Ça veut donc dire que des Cambridge Analytica, il y en a potentiellement des millions en Afrique subsaharienne. Et ça, c'est très inquiétant. Et donc, c'est pour ça que oui, il faut de la régulation, non seulement de la régulation étatique, mais bien sûr, les sociétés civiles comme la nôtre, où les citoyens doivent pouvoir demander des comptes à ces opérateurs et à ces entreprises telles que Facebook, Google et Amazon et réclamer leurs
données personnelles. On va revenir justement sur les données personnelles dans une autre partie. Je voudrais poser au ministre Thierry Mungala cette question. Les autorités congolaises ont récupéré le terme de fake news utilisé par Donald Trump pour attirer l'attention sur les informations relayées sur cette plateforme. Est-ce que vous pouvez nous donner des explications?
Bon, d'abord, il faut savoir que je rebondis sur les propos de M. Basile tout à l'heure. Loin de moi, en tant que gouvernant et responsable politique, l'idée de considérer qu'on puisse arrêter un océan, c'est-à-dire le déferlement d'Internet, par notre seule volonté. C'est pas le propos. Le propos est-ce que l'on peut assurer une régulation correcte, conforme aux intérêts des populations, aux intérêts des États, d'un outil qui semble échapper à son propre créateur. On parle de Facebook. Bon, pour le reste, vous voyez bien quand dans votre reportage, les citoyens interrogés sont mitigés. Ils reconnaissent le caractère formidable de l'outil qui a permis à des gens de se connecter du monde à l'autre, mais en même temps, on relève les dangers, c'est-à-dire les éléments qui peuvent conduire à des drames personnels ou à des problèmes collectifs dans des États, que ce soit des problèmes électoraux ou des problèmes de paix civile. Donc, de notre point de vue, aujourd'hui, la question qui se pose est de savoir comment nos faibles États, en Afrique centrale notamment, peuvent décider, au-delà de la directive qui a été prise il y a quelques années, j'étais à l'époque ministre des Télécoms, assurer une coordination effective qui permette à la fois la garantie de l'intérêt de l'État, parce que quand même nous avons investi dans des infrastructures, il faut qu'elles produisent, il faut qu'elles soient rentables, et deuxièmement, assurer la protection de la paix civile et des citoyens, et notamment pour la cybercriminalité qui explose en Afrique. Eh bien, nous, comme l'Europe, nous devons aller, et l'exemple européen est à mon avis assez typique, aller vers un règlement général, et non pas des directives qui doivent être appliquées de manière fractionnée pour chaque État, avec ses faiblesses ou ses qualités, mais plutôt ses faiblesses. Donc, c'est cette réponse commune africaine ou par sous-région qui devrait nous permettre de répondre à ces défis qui sont ceux d'aujourd'hui, c'est-à-dire une question de rapport de force. Vous n'avez pas mentionné dans les exemples la sanction que s'apprête à prendre la CNIL, c'est-à-dire l'autorité informatique et liberté en France, contre WhatsApp, qui est une filiale d'ailleurs de Facebook, parce qu'ils se sont aperçus fin 2017 que cette entreprise avait transféré clandestinement, sans obtenir l'accord des clients français, et bien les données de ces clients français vers la maison mère aux États-Unis. Et il y a une procédure de sanction qui est en cours. Vous voyez que même les États les plus puissants, effectivement, sont victimes de ce rapport de force dont nous parlons. Donc, la réponse est d'abord une réponse globale.
Merci. Je vais juste rebondir parce qu'on a des commentaires des téléspectateurs. Encore une fois, voici d'autres commentaires recueillis sur Facebook. On a un commentaire du Mali d'Abouna Traoré. Facebook est un réseau social instructif parce que ça permet à beaucoup d'utilisateurs d'être au courant des actualités en Afrique, en Europe, dans les Amériques, en Asie. Mais les fake news nous causent des problèmes ainsi que les hackers. Et de la RDC, Alphonse Boaki, cher fidèle auditeur, des secrets de défense militaire en Afrique, des secrets diplomatiques ne seront pas couverts avec cette défaillance des paramètres de confidentialité des réseaux sociaux. Julie Owono, suite au scandale Facebook, Facebook a tout de même dit vouloir changer ses menus de confidentialité pour plus de protection des données. Qu'en pensez-vous ?
Je pense pas qu'on puisse faire croire Mark Zuckerberg sur parole. Il y a 6-7 ans à peu près, il disait à la BBC qu'il ne gardait aucune donnée personnelle sur ses utilisateurs, en tout cas sans leur demander. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est complètement faux. Donc non, il faut pas croire Mark Zuckerberg sur parole. Il faut que la pression continue, mais pas que sur Mark Zuckerberg. Je le redis encore une fois, parce que c'est vrai que c'est spectaculaire, c'est vrai, c'est Cambridge Analytica, mais il y a des choses encore plus graves qui se passent, qui continuent à se passer, qui continueront à se passer si on ne focus que sur finalement celui qui est le symptôme et non pas le véritable mal. Et en l'occurrence, j'insiste encore là-dessus, sur l'importance pour la puissance publique africaine, européenne, où qu'elle se trouve, de prendre les mesures nécessaires. On parle de Facebook aujourd'hui, mais il faut se rappeler qu'il y a 2 ans à peu près, Yahoo avait été accusé d'avoir autorisé le gouvernement américain, en particulier son agence de renseignement, la NSA, à avoir une porte dérobée dans ses serveurs pour pouvoir accéder à tout, en gros tous les emails potentiellement. Et d'ailleurs, ils l'ont fait, c'est 3 milliards d'emails qui auraient été ainsi à la disposition de la NSA. Donc, quand on se rappelle que beaucoup d'utilisateurs en Afrique subsaharienne utilisent les adresses en Yahoo, y compris des représentants de gouvernement, on se surprend qu'aujourd'hui, il n'y a encore eu aucune plainte, qu'aucun gouvernement n'ait demandé de compte au gouvernement américain, parce que c'est quand même très grave. Donc, c'est pas que Facebook. Facebook, c'est vraiment, c'est un symptôme. C'est un mal qui est en train de ronger ce bien commun qui est Internet, qui doit être utile à tous.
Mais c'est très intéressant, justement. Vous me donnez envie de rebondir avec Franck. Franck Wolfens, on voit, en fait, cette méfiance générale du côté donc des politiques, des consommateurs. Qu'est-ce que vous préconisez aux gens qui utilisent des adresses e-mail comme l'a dit Madame Owono, ou même qu'est-ce que vous préconisez à Monsieur Mungala qui est avec nous ce soir, Monsieur le ministre, comme hygiène sur le web?
Mais oui, vous avez mentionné, il y a ce terme de la cyberhygiène ou de l'hygiène numérique.
Oui,
l'hygiène
numérique,
il faut vraiment prendre conscience. Et en fait, c'est personnel. Les choix d'adhérer à des services comme Facebook ou Twitter ou WhatsApp ou autres sont des choix personnels d'abord. Ce sont des services qui sont gratuits. Donc nous avons tendance à plus adhérer plus rapidement que de payer pour des services qui en fait donc ont une responsabilité envers les utilisateurs pour ce service. Mais quand le service est en fait gratuit, il y a des dangers, il y a des risques. Donc en tant que consommateur, c'est très important d'appliquer des règles et des conseils d'hygiène numérique. Donc changer son mot de passe, mettre à jour les logiciels des différents appareils. Vraiment être très conscient qu'en effet, c'est un choix. Donc nous sommes à risque à tout moment. Et c'est donc très important du côté des consommateurs et aussi des acteurs politiques d'être conscient de cela.
Basile Nyon, très rapidement, votre point de vue à ce sujet. Qu'est-ce que vous conseillez aux téléspectateurs pour leur bonne hygiène sur les réseaux sociaux?
Bon, permettez-moi de saluer chaudement le ministre Thierry Mungala, que j'admire beaucoup.
Oui, il ne nous reste pas beaucoup de temps, s'il vous plaît.
Voilà, alors je voulais dire que en ce qui concerne les données confidentielles, et surtout qu'on parle des données personnelles, habituellement les données personnelles sont fournies par les clients eux-mêmes à vos différents services pour Facebook. Quand vous downloadez l'application Facebook sur votre portable, Facebook vous pose bien des questions, savoir si vous donnez accès à votre adresse, à votre carnet d'adresse, si vous donnez accès à vos communications, à vos photos, à toute une série de données, et vous dites oui avant de downloader l'application. Et donc Facebook a accès à tout cela. Ceux qui vont aujourd'hui sur leur Facebook, qu'ils aillent, il y a un bouton où vous pouvez télécharger tout ce que vous avez comme archive avec Facebook, et vous allez être étonné de voir que dans le téléchargement que vous allez faire, vous allez trouver les gens que vous avez appelés depuis
certains temps. Et toutes nos données, effectivement. Effectivement, je suis vraiment désolée, le gong de la fin sonne déjà, mais ce qu'on a compris, en tout cas, que si c'est gratuit, c'est que nous sommes le produit, on doit faire très très attention. Ainsi s'achève ce Washington Forum. Merci à tous nos invités et à mes collègues de Washington. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente suite de programme.